Le deuxième était le slow.
Transistor.
Édition spéciale, Transistor, aux journées de l'écho.
Bonjour, bienvenue à tous et à toutes sur Transistor. Actuellement, un événement se produit à Lyon, à savoir les journées de l'économie. Sur les trois jours 9, 10 et 11 novembre, un cycle de conférences est organisé autour des problématiques de l'économie. Transistor a le privilège d'accueillir des participants à cet événement. Pour commencer, Paul Seabright, qui participe à une conférence demain à 9h en salle Rameau, sur le sujet suivant, l'économie comportementale peut-elle faire le bonheur des citoyens ? Bonjour Monsieur Seabright et merci d'être avec nous aujourd'hui.
Bonjour, c'est un plaisir.
Monsieur Seabright, vous êtes diplômé d'Oxford, vous avez une formation à la fois en économie et en philosophie, vous êtes enseignant à la Toulouse School of Economics, vous faites du conseil économique, de la recherche en économie du développement. Et vous avez sorti un ouvrage en 2004 qui a été traduit en 2011, me semble-t-il, donc tout récemment en français, et qui s'appelle « La société des inconnus, histoire naturelle de la collectivité humaine ». Travail un peu hétérodoxe, donc, dans le temps long, et on le voit à cette brève présentation, votre parcours mêle à la fois l'économie quantitative, notamment pour le conseil économique, et la philosophie, une approche peut-être qu'on pourrait dire plus littéraire. S'agit-il d'un grand écart pour vous ?
Pas du tout, c'est un retour aux origines, parce que si vous avez lu Adam Smith, ou si vous avez lu au moins des extraits de Adam Smith en traduction, vous saurez sans doute qu'il n'a pas écrit que La richesse des nations, il a écrit aussi la théorie des sentiments moraux. Et c'était en fait un prof de philosophie à l'université d'Édimbourg. Et à l'époque d'Adam Smith, la philosophie et l'économie étaient deux faces, on pourrait même dire, de la même approche à la compréhension du monde qui nous entoure. Il est vrai que depuis, il y a eu dans certaines parties de la discipline de l'étude de l'économie un écart entre l'économie très mathématisée, ce que j'ai jamais méprisé d'ailleurs, que j'ai toujours trouvé être extrêmement utile pour la compréhension de notre monde. Mais c'est vrai que cela demande parfois des compétences très poussées, très développées, et que pour certaines personnes, c'est mieux de se concentrer là-dessus et de laisser l'étude de l'histoire aux autres. En attendant, la discipline, avec son institutionnalisation dans les départements des universités, des facultés, etc., a vu un certain clivage entre l'étude historique et l'étude formelle et modélisée et mathématisée. Mais disons que ce n'était jamais dans l'âme de la discipline, que ce soit ainsi, c'était une évolution due à une certaine conjoncture institutionnelle de la fin du 19e, du 20e siècle, qui a été, je dirais, même particulièrement approfondie en France et moins en Angleterre. Je parlais tout à l'heure à mon éditeur Marcus Allure de Genève, qui m'a fait la remarque que en Angleterre, il y a une tradition un peu différente, la tradition de l'économie de Marshall. Et Marshall, tout en étant quelqu'un de très compétent dans l'étude formelle de l'économie, avait une connaissance historique extrêmement importante. Donc je dirais que la place de la philosophie est au cœur de l'économie et l'a toujours été. On a un peu oublié ces derniers temps, mais c'est un retour aux origines, c'est pas une innovation sans précédent.
Effectivement, oui, c'est plus un retour aux origines qui se passe dans les universités anglo-saxonnes, puisque en France, vous qui avez effectivement un regard à la fois sur l'université française et sur l'université anglo-saxonne, il y a une grosse différence encore entre la manière dont est envisagée la discipline économique de ces deux côtés de la Manche.
Ne sous-estimez pas les universités françaises. Si je me suis expatrié, c'est parce que j'étais admiratif de la très grande qualité de la recherche en France, et pas uniquement dans les domaines extrêmement formels. Vous avez sans doute entendu des éloges sur mes collègues extrêmement formels et mathématisés, des économètres, des économistes mathématiques, classique à Toulouse, mais est-ce que vous savez que nous avons une équipe d'une bonne vingtaine d'économistes comportementaux? Peut-être ça, vous avez peut-être pas la conscience de ça, mais je vous assure que l'économie comportementale is alive and well and living in Toulouse. Hein. vraiment, je vous assure. Et il y en a ici à Lyon, ma collègue Marie-Claire Vival, avec qui je vais parler cet après-midi et qui va justement présider la séance de demain. C'est une économiste comportementale très renommée qui fait du travail vraiment excellent et passionnant. Et je suis absolument fier d'être dans un cadre français pour faire ce genre de travail.
Bien sûr. Je parlais tout à l'heure de votre ouvrage, où, pour résumer peut-être brièvement, corrigez-moi si je me trompe, mais vous restituez l'évolution à la fois naturelle et culturelle de l'homme pour comprendre à la fois l'apparition et le maintien des marchés. Il s'agit donc d'une approche économique, je le disais, dans le temps long. Quel est l'apport d'un tel regard, ou en d'autres termes, quelle est votre conception de l'homo economicus d'après cette perspective historique et anthropologique ?
Voilà, je vous ai fait des éloges de l'économie comportementale et maintenant je vais être un peu inconsistant et je vais quand même en faire quelques critiques parce que un des reproches qu'on peut faire à l'économie comportementale telle qu'elle a été pratiquée pour la plupart jusqu'ici, c'est qu'elle a mis beaucoup d'efforts à démontrer les défaillances et les faiblesses du raisonnement de l'être humain. C'est-à-dire qu'on dit que l'être humain est comme un homo economicus un peu défaillant ou un ordinateur qui ne marche pas très bien parce qu'il a des trous de mémoire, parce qu'il a des biais. Donc on considère l'homme réel ou l'être humain réel sous la perspective d'une idéalisation bayésienne d'un être qui raisonne parfaitement bien, sans biais, et on nous trouve défaillants et on se dit ah ah, voilà, il faut maintenant il faut essayer de façonner nos politiques économiques pour prendre en compte les faiblesses de ce pauvre être qui est l'être humain. Alors, je vais dire, ça a des retombées sur ce qu'on va discuter demain, d'ailleurs, parce que je suis profondément convaincu que c'est une erreur de nous considérer comme des ordinateurs défaillants. Je trouve plutôt, et là, c'est la perspective qui anime ce bouquin, c'est une perspective qui tire beaucoup de la biologie. Le nom de Charles Darwin a été étrangement absent de l'inspiration économique depuis très longtemps, et je préfère considérer que l'être humain, loin d'être un ordinateur défaillant, est un grand sage extrêmement malin et extrêmement stratégique. Il a des compétences qui dépassent très largement les compétences, même aussi impressionnantes soient-elles, des grands singes que nous connaissons. J'ai lu pas mal de primatologie sur les chimpanzés, les gorilles, les bonobos, etc. Et ce sont quand même des individus qui ont une capacité d'interaction sociale extrêmement impressionnante. Alors nous avons poussé cette capacité pour l'interaction sociale à un point qui aurait été complètement inimaginable pour ces autres singes. Et d'ailleurs, dans un bouquin que je viens de terminer, qui est plutôt sur les relations entre hommes et femmes, et qui va être publié, vous voyez que j'exploite la possibilité de faire mon autopublicité, allez-y, qui va être publié par Princeton University Press au mois de mai dernier, je m'amuse à imaginer ce que dirait des équipes d'anthropologues sociaux tirées des chimpanzés et des bonobos et des gorilles sur notre société humaine. Et j'ai tout un chapitre qui raconte le rapport de leur équipe de recherche sur l'être humain et comment il vit et les étranges et bizarres façons de se comporter. Alors, il faut se rendre compte que nous avons, on peut dire, colonisé une niche dans notre environnement qui est assez remarquable. Notamment, on a colonisé la niche de l'élevage des enfants, un point qui dépasse de très très loin ce que font les chimpanzés. Les jeunes chimpanzés, par exemple, ils sont indépendants de leurs parents à peu près à 5 ans. Nous, chez les chasseurs-cueilleurs, les enfants, les ados, ils sont dépendants jusqu'à presque 20 ans. C'est remarquable parce que vous pourriez dire que quand même un adolescent à 12-13 ans, il est capable de se débrouiller, mais la vie des chasseurs-cueilleurs est extrêmement demandeur de compétences, Et un ado de 12-13 ans, aussi costaud soit-il, il mange beaucoup et il a besoin d'être épaulé pour survivre. Et donc, il a besoin jusqu'à à peu près l'âge de 20 ans pour être suffisamment, pour être capable de se nourrir soi-même. Donc, nous avons une espèce d'organisation sociale qui est axé autour du besoin d'élever nos enfants, et non seulement de les élever dans le sens pratique, de les nourrir, mais aussi de leur léguer les compétences pour survivre dans un monde qui est profondément hostile. Mmh. Et donc j'ai commencé de ce constat que nous avons quand même réussi à bâtir, à construire ensemble, même dans des groupes de chasseurs-cueilleurs, une vie sociale d'une complexité qui dépasse très très largement qu'ont fait les grands sages, mais qui avait des conséquences pour notre psychologie. Nous sommes devenus extrêmement stratégiques, et nous félicitons de notre capacité d'anticiper non seulement ce que vous pensez de moi, mais ce que vous pensez de ce que je pense de vous, et vous êtes aussi malin que vous puissiez anticiper ce que je pense de ce que vous pensez de ce que je pense de vous. Et on va essayer de, comme ça on a des jeux stratégiques, et bon, bien sûr, ça, très souvent, ça finit en larmes, ou pire, en sang. Mais dans notre histoire, c'est une histoire non pas de pauvres ordinateurs défaillants et des trous de mémoire, mais plutôt d'interactions très riches, et parfois même riches en sang et en guerre, entre des êtres extrêmement stratégiques et extrêmement malins. Mais tout cela, tout de même, dans un contexte de petits groupes de gens qui s'épaulaient, qui se soutenaient, et qui avaient une histoire plutôt guerrière contre les autres groupes qui rencontraient. Alors, il y a des nuances là-dedans, mais dans l'ensemble, notre passé préhistorique était violente et à la fois très coopérative. C'est-à-dire, au sein du groupe, on se soutenait, on s'épaulait, mais entre groupes, on avait des relations souvent très très hostile. Alors, donc vous vous dites, voilà notre héritage psychologique. C'est ce dont nous avons besoin pour survivre dans le monde moderne. Mais vous vous rendez compte, vous sortez dans la ville de Lyon, il y a des millions de gens qui vous entourent. Ça aurait été un acte suicidaire pour vos ancêtres d'aller dans un restaurant et demander à quelqu'un que vous n'avez jamais rencontré de votre vie. Vous ne sortirez pas la vie sauve. Hein. Je viens de voir un autre grand singe, type tout à fait sympathique. Je me suis assis à la table sans même regarder s'il venait après moi pour m'assommer. Et bon, je le fais tous les jours, vous le faites tous les jours. On a oublié à quel point c'est bizarre. Et c'est même inquiétant. Hein. Mais on le fait pourquoi ? Parce qu'on a construit tout autour un système d'institutions, un équilibre social. Bon, vous qui faites sans doute un peu de théorie des jeux, vous comprenez ce que c'est, un équilibre social. Mais on a construit un équilibre social qui nous a permis d'endormir, si j'ose dire, tous les instincts qui auraient dû nous mettre sur le qui-vive. Vous imaginez le niveau de cortisol dans votre sang, le stress que vous auriez à vivre si vous aviez la psychologie d'un grand singe transplanté dans une ville de plusieurs centaines de... Enfin, je ne sais pas la population de Lyon, mais c'est plusieurs millions, non ? Le stress que vous aurez s'il n'y avait pas autour toute cette structure rassurante, apaisante, d'institutions économiques qui vous fait comprendre que ça va, il ne va pas vous assommer quand même, le serveur.
Et qui sont actuellement implicites, en fait.
Tout à fait. Qui ne sont pas pour autant moins une connaissance acquise. C'est-à-dire, on ne naît pas... je vais faire du Simone de Beauvoir de deuxième degré. On n'est pas homo economicus, on le devient, mais on le devient depuis tout jeune. Et même à votre âge, qui est un peu plus bas que le mien, vous l'avez appris votre leçon tellement bien que vous avez oublié que vous l'avez appris. Et justement, vous sortez dans la rue et vous vous inquiétez pas, mais vous devriez, hein. Enfin, de temps en temps, hein. Au moins pour vous rendre compte de combien on a réussi à apprendre.
Et après l'homo economicus, passons maintenant à l'homme qui a fait de l'économie son métier, à l'économiste. Alors, je vais déjà poser une question très simple. Qu'est-ce qu'un économiste pour vous ? Et pour préciser ma question, donc vous parlez d'une éthique professionnelle. Et quelle est alors l'éthique professionnelle de l'économiste ?
Oh là, c'est difficile. Pour moi, un économiste, c'est juste quelqu'un qui s'intéresse au monde qui l'entoure. Et donc, j'ai des économistes parmi mes collègues. Je vais être un peu méchant de dire que même parmi mes collègues économistes attitrés, je ne vois pas trop chez certains la curiosité du monde qui les entoure plutôt que du monde qu'ils trouvent dans leurs articles. Mais ils sont très minoritaires, je précise. Mais je vois des économistes, je trouve que chaque enfant est un économiste. Et d'ailleurs, vous pouvez penser que, puisque mon livre a beaucoup de notes de bas de page, etc., ou notes de fin plutôt, que c'est un livre écrit pour mes collègues, mais c'était écrit, je l'ai écrit d'abord pour mes enfants, parce que je savais que mes enfants, ils sont grands maintenant, mais ils avaient une curiosité énorme sur le monde qui les entourait. Ils avaient l'impression un peu vaguement que ce que faisait leur papa était quelque chose de très, très utile et très, très ennuyeux, et que ça pouvait absolument pas intéresser des gens vraiment avec un peu d'esprit, avec un peu de curiosité. Et j'essaie d'écrire ça un peu dans l'esprit de quelqu'un qui est passionné, comme moi, comme étaient mes enfants, par les programmes, les émissions à la télé d'histoire naturelle d'autres espèces. Je vois, je ne sais pas si David Attenborough passe en France, mais c'est un biologiste qui part dans la nature, dans la jungle, qui vous trouve un nid de guêpe ou des sauterelles, ou qui trouve des singes et qui vous explique comment c'est extraordinaire que cette organisation sociale de cette espèce et puisse produire. Alors, dans mon sentiment, c'était un petit peu pour expliquer à mes enfants qu'on pouvait faire de l'espèce humaine la même étude aussi passionnante, aussi marrante, aussi curieuse que l'étude des autres espèces. Et donc, je crois qu'ils ont un peu compris que ça pourrait être vraiment passionnant. Donc, pour moi, un économiste, c'est ça. C'est juste quelqu'un qui se pose des questions dans la rue, qui se demande pourquoi ça se fait comme ça. Et donc, j'ai trouvé l'esprit de l'économiste chez beaucoup de gens qui n'ont jamais fait un cours d'économie de leur vie. Et c'est toujours un plaisir quand je voyage beaucoup, je rencontre des gens qui me font ce genre de réflexion sur leur vie. Parfois, ils me demandent ce que je fais, je raconte un petit peu. Ils disent « Ah oui, mais c'est intéressant parce que mon frère, vous savez, il a une entreprise, ça fonctionne mal, je me demande pourquoi, etc. » Et donc, on peut tenir cette conversation et cette personne-là, c'est un économiste. Mm-hmm. Et j'ai même eu le plaisir d'un de mes ex-thésards qui maintenant occupe une fonction très, très importante à la Office of Fair Trading à Londres, qui fait des études de marché. C'est quelqu'un issu du Cameroun où il a grandi plus ou moins dans la brousse. Son père avait une entreprise, ce qu'on appelle au Cameroun, dans la partie anglophone du Cameroun, on appelle un bayam salam. Un bayam salam, c'est quelqu'un qui achète et quelqu'un qui vend ici. Et c'était une joie que quand Djibril est arrivé dans mes cours, parce que chaque fois qu'on mettait un peu sur le tableau des équations pour ça, il levait la main, il disait écoutez, je suis pas sûr de comprendre l'équation, mais je me souviens que quand mon père avait vendu quelques vaches contre du blé, il n'y avait pas de prix, donc je comprends pas votre histoire de l'enchère parce qu'il y a un prix qui est visible pour tout le monde. Comment est-ce que mon père a pu faire ça, etc. Et on discutait, et j'ai adoré ces cours. C'était quelqu'un il animait le cours pour tout le monde, parce que comme vous pouvez imaginer, il y avait des gens qui avaient fait des équations toute leur vie et qui se sont jamais posé la question qu'est-ce que ça veut dire. Quand il y a quelqu'un qui regarde autour de lui et qui demande qu'est-ce que ça veut dire concrètement par rapport à ce que fait mon père ou ce que fait mon frère ou ma sœur ou ma fille, etc. C'est pour moi, c'est le vrai esprit de l'économiste. Excusez-moi, j'ai été un peu long, mais comme vous voyez, c'est quelque chose qui m'inspire beaucoup. Et je trouve justement l'esprit de l'économiste chez beaucoup de gens qui n'ont jamais fait l'étude formelle.
D'accord. Mais alors, cette fois-ci, plus peut-être sur le métier d'économiste, l'actualité, que ce soit la crise des dettes souveraines, ses relations avec les politiques économiques, c'est-à-dire budgétaires et monétaires de l'Union européenne, les pays émergents à très forte croissance, la Grèce ou la crise des subprimes. Est-ce que vous pensez que il y a une évolution de la discipline de la part de la discipline économique dans justement ce regard sur le monde, dans ce regard sur l'actualité? Et si oui, alors quelle est la place, la nouvelle place peut-être de l'économiste dans la cité?
Ah, ça c'est une question énorme et difficile, et je ne vais pas être entièrement optimiste là-dessus. D'abord, je vais commencer avec un peu d'optimisme et je vais mettre quelques bémols par la suite. Pour la partie optimiste, je crois que après la crise financière, il y a beaucoup de gens qui se sont rendus compte à quel point nous avions sous-estimé certaines faiblesses. Pour certains, c'était des faiblesses psychologiques de l'être humain. Donc, l'économie comportementale jouit d'une certaine renaissance à cause de ça. Mais pour d'autres, c'était, et je pense que c'était surtout mon cas, qui s'était rendu compte de certaines faiblesses institutionnelles, parce que j'étais toujours conscient de nos faiblesses comportementales et psychologiques. Mais je crois que avec beaucoup de mes collègues, j'étais un peu trop optimiste sur notre capacité de construire une architecture de la confiance qui serait robuste aux dangers que nous avions vus. Et il y a justement, enfin, quand vous avez parlé du fait que mon livre est sorti en 2004, il y a une deuxième édition en 2010 qui est sortie, et c'est cette édition qui est traduite en français, parce que justement, je parle, il y a un chapitre là-dedans sur la crise des surprimes et sur quelles ont été les faiblesses de cette architecture de confiance. Et là, j'évoque le paradoxe que l'architecture de la confiance a été instable, précisément, puisque pendant très longtemps, elle avait très bien marché. On peut la comparer un petit peu à l'autopilote d'un avion qui, mieux il fonctionne, moins il y a pour les pilotes à faire, et donc plus il y a un risque lorsque on a vraiment besoin de l'intervention manuelle des pilotes. Ils ne sont pas prêts, ils ne sont pas préparés, ils n'ont pas l'habitude. Le problème était qu'on avait construit une architecture de régulation des marchés où non seulement il y avait une certaine technicité dans la séparation des pouvoirs. On disait, voilà, telle fonction, c'est à X, telle fonction, c'est à Y. Il y avait une si belle allocation de compétences aux agences qu'on avait l'impression que ça marchait très bien. Pour tout problème qu'on pourrait imaginer, il y a quelqu'un pour le régler. Mais toujours quelqu'un d'autre, vous voyez. C'est pas moi. Ah non, bien sûr, je peux pas m'occuper de tout. Il y a toujours... vous citez un problème futur? Oui, bien sûr, il y a quelqu'un. Et on a commencé à jouer le jeu de « oui, il y a toujours quelqu'un, mais pas moi, merci ». Et donc, je parle par exemple des banques centrales, qui pendant très longtemps avait fait un boulot très efficace dans la maîtrise de l'inflation, etc. Et je ne suis vraiment pas quelqu'un qui crache sur la réussite des banques centrales pendant très longtemps. Il y a des gens qui ont dit que maîtriser l'inflation est quelque chose de c'est entièrement pour les riches, c'est capitalistique, etc. Je ne partage absolument pas cet avis. Je pense que la maîtrise de l'inflation, c'est très important. C'est souvent les pauvres qui souffrent de l'inflation. Je ne méprise absolument pas la réussite des banques centrales. Mais c'est puisque précisément elles avaient tellement bien réussi, on avait l'impression qu'on pouvait, enfin, même s'il y avait une petite bulle spéculative dans les marchés financiers, bon, il y avait toujours... donc, Alan Greenspan était venu à notre rescousse en 87, juste un mois après sa nomination. Il était revenu à notre rescousse en 92. Il était revenu à notre rescousse après la crise asiatique en 98. Après la crise des subprimes, c'était une espèce de Superman qui arrivait...
dernier ressort.
Et le problème, c'est que quand tout le monde croit à Superman, on oublie que dans le monde réel, il n'y a pas de Superman. Il y a le travail de Superman est réparti entre nous tous. Et si nous n'arrivons pas à faire le travail, parfois ça éclate. C'est ce qu'on a vu. Donc et malheureusement, je pense que c'est une leçon qui n'a pas entièrement été prise en compte. C'est-à-dire, Il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup d'analyses extrêmement fines qui disent, voilà, il faut une nouvelle architecture. Là. Mais chaque fois, nous avons l'impression on résout un problème statique et on se dit, voilà, maintenant, on a compris. Et dans le chapitre que je vous ai évoqué, je parle du fait que c'était précisément parce qu'on avait tellement bien résolu la crise des années 30 qu'on était systématiquement aveuglé à la crise des années 2000. Et je crains que plus on se félicite de notre compétence de résoudre la crise des années 2000, et c'est loin d'être terminé, enfin, qui sait si à la fin de cet entretien on trouvera que l'euro n'existe plus. Vraiment, on est quand même dans une situation très dangereuse, mais si on réussit à s'en sortir, le risque est que précisément cette espèce d'auto-félicitation va nous aveugler à de nouvelles menaces. Et on peut dire que même la crise de la dette souveraine vient, dans une certaine mesure, à cause du fait que tous les États qui avaient réussi à... Ils s'étaient dit, voilà, il y a des titres extrêmement risqués privés qui étaient donc... qui était vendu par des entreprises privées, des banques, etc. Nous avons été arnaqués par une espèce de collusion entre les banques privées et les agences de notation. Maintenant, on comprend, on ne va jamais pouvoir faire ça. Heureusement, on se base sur des titres vraiment de confiance, c'est-à-dire la dette souveraine. Et vous avez entendu sans doute au mois d'avril, quand il y a eu ces mêmes agences de notation, déjà les mains brûlées du fait qu'ils avaient été trop optimistes sur les titres privés. Ils ont commencé à parler du risque de la dette souveraine. Il y a Mme Lagarde qui dit non, mais c'est pas possible, ces gens qui crachent sur la dette souveraine. Il faudrait une agence européenne qui soit plus optimiste sur la dette souveraine. Bon, heureusement, il a fallu qu'elle démissionne pour arriver au FMI pour finalement nous dire la vérité, qu'il y avait des faiblesses extrêmement importantes. Mais vous voyez qu'en 3 mois, Madame Lagarde, qui est une personne extrêmement compétente, extrêmement honnête, extrêmement honorable, elle s'est trouvée au mois d'avril dans une situation où elle s'est trouvée obligée de mentir sur des faiblesses qu'elle savait tout à fait exister dans la dette souveraine parce que la conjoncture politique le demandait. Et on s'est trouvé donc dans une logique où pour... achever, si j'ose dire, la solution à la crise de confiance des titres privés, on s'est construit une espèce de fable sur la bonne qualité des titres publics dont on récolte maintenant les résultats. Et les résultats sont bien douloureux. Donc je crains que la solution qu'on trouvera pour la dette souveraine, quelle qu'elle soit, risque de déclencher une nouvelle vague d'autofélicitations et peut-être une crise dans l'avenir. Il faut être extrêmement prudent.
Je vous remercie.
Merci, M. Seabright, d'avoir accepté de passer ce moment avec nous. Et merci aussi pour votre regard original sur l'économie.
Et merci pour cette conversation, pour vos questions.
Et nous rappelons à nos chers auditeurs qu'ils peuvent assister à la conférence de Paul Seabright demain à 9h en salle Rameau. Nous rappelons également le titre « L'économie comportementale peut-elle faire le bonheur des citoyens ?»
Ne manquez pas non plus les prochaines interviews des participants des Journées de l'économie. À suivre donc et à bientôt.
Édition spéciale Transistor aux Journées de l'éco.